Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie en ce lundi 22 juillet. Nous entamons la dernière semaine complète du mois de juillet, en plein cœur des vacances. Et oui, bon nombre ont entamé cette période de pause estivale. Cela dit, une belle semaine en vue à l'émission avec plein de sujets et des rencontres toujours passionnantes. Je salue en même temps notre équipe, Mathieu Tessier à la réalisation et à la mise en onde, Clarence Robitaille-Meloche, notre stagiaire, chroniqueuse et collaboratrice au contenu, ainsi que notre recherchiste principale et co-animatrice Nathalie Barrette. Je vous invite à nous suivre au cours de la prochaine heure. On vous fait découvrir de beaux jardins à travers les yeux d'un photographe, mais on discute aussi de jardinage avec une horticultrice pour le moins colorée. Voici Aime l'été. Et à l'émission aujourd'hui, on découvre le métier de photographe de jardin avec Laurent Dravigné, qui a déjà exposé au domaine joli de Lotbinière. Et oui, ce magnifique jardin, en fait un des plus anciens jardins du Québec, on en reparlera. Il sera question également d'une fermette éco-responsable qui est devenue un havre de paix pour de jeunes adultes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. On va recevoir Marie-Ève Charrette pour en parler. Marie-Ève qui est animatrice au jardin du Méandre. Mais notre première demi-heure sera consacrée à une personnalité bien connue du public, l'horticultrice, conférencière, humoriste, autrice et femme de cœur, Marthe Laverdière. Alors, joignez-vous à nous à Aime l'été! L'été avec Nathalie, avec Allô. Chantal. Oui, alors comment vas-tu?
Hey, ça va bien. Écoute, on parle jardin aujourd'hui.
Oui, c'est notre
j'ai
sujet.
J'ai jardiné tout le week-end,
ben, c'est
mais
drôle,
c'est pas une farce.
Hein? Parce que j'ai fait un petit peu la même chose, mais moi, ça a été d'enlever des mauvaises herbes, simplement.
Ah non, moi, c'est des fleurs, écoute, qui ont manqué un peu d'eau parce qu'on a des temps vraiment secs en ce moment.
Ouais.
Et puis, je suis allée à mon magasin préféré qui est Archipel à Saint-Hubert, là où tu peux acheter tellement de fleurs. Et je sais que Madame Laverdière aime beaucoup, c'est la période d'hiver. Archipel, c'est une période où l'été, les fleurs, au printemps, moi, je vais acheter mes fleurs là. Mais à Noël, j'achète tellement de décorations de Noël au Archipel, j'adore ça.
Oui, d'ailleurs, je sais que notre prochaine invitée aime ça
aussi,
magasiner pour des articles de Noël. Alors, je pense qu'elle c'est une passionnée de décorations de Noël. Alors, on l'a à l'autre bout du fil. Bonjour, Marthe Laverdière.
Bonjour!
Bon, écoute, je vais te tutoyer parce qu'on va passer quand même la demi-heure ensemble.
Oui.
Alors, on va pas passer du vous au tu, là.
Et non, puis bon. On ne pas dans les fleurs du tapis.
Ah, c'est bien dit. C'est bien dit. Alors, on te reconnaît, évidemment. Alors, tu es une femme, je dirais, d'exception. J'aime pas ça. En fait, je veux pas employer le mot phénomène parce que je sais que tu n'aimes pas ça, ce mot-là. Pour toi, tu es une femme bien ordinaire, mais qui a fait quand même des choses extraordinaires en ce sens que tu as fait 1000 métiers et puis tu es l'horticultrice, dis-je bien connue du public. Là. Tu animes ton émission, tu vas avoir ton émission là, et puis je pense que c'est la deuxième saison cette année.
Non, on est en première saison, mais ils ont annoncé qu'on aurait une saison 2.
Ah, c'est ça, d'accord. Bon, alors je me démêle. C'est ça, parfait. Maintenant, tu as fait aussi plein de choses dans ta vie. Tu es une mère, une grand-mère, et puis tu es vraiment une autodidacte. Alors, tu t'es bien sûr formée aussi en massothérapie.
Oui.
Tu as été une gestionnaire de ferme laitière familiale.
Oui.
Ça, c'était beaucoup plus jeune, vraiment, tu as fait plein de choses.
Il y a 24 heures dans une journée. Madame Laverdière, comment vous faites tout ça?
je vais te dire, moi, je suis un hyperactif. J'ai jamais voulu être médicamentée. Donc, très jeune, mon père, dans le temps, on ne parlait pas d'hyperactivité. On disait que c'était un enfant qui bougeait beaucoup. Et mon père me disait tout le temps, « Marc, dérange pas les autres et focalise-toi pour que ce soit constructif. » Mm-hmm. Alors, moi, la nuit, je dors par coup. Je dors pas comme les gens qui peuvent dormir 8 ou 9 heures en ligne. Moi, je dors 2 heures, je suis réveillée 1h30. Alors, j'écris la nuit beaucoup. Mais j'adore ça parce que la nuit, je trouve que c'est un temps juste pour moi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, il n'y a pas personne qui est avec moi. J'adore ces moments-là. Oui.
Ouais. Alors, puis, évidemment, tu fais tes shows d'humour, là, pour ainsi dire, tes spectacles d'humour un peu partout au Québec. Alors, ça, vraiment, tu es très occupée jusqu'en 2025. Tu es complètement, en fait, tout est complet, là, je pense, vraiment. Et puis, tu as tes conférences, évidemment, qui portent sur plein de sujets. Et puis, évidemment, on parle de conférences liées aussi à l'horticulture, forcément. Tu donnes ta chaîne YouTube. Et puis, tout a commencé en 2016 de façon un peu particulière. Parce qu'à l'époque, bon, tu avais une cliente justement que tu massais et puis elle voulait être... elle avait proposé que tu lui fasses une espèce de petite capsule hein, pour la divertir.
Écoute, elle était en dépression et puis à un moment donné, elle me dit, t'as un Facebook des serre-lumeaux, mais je ne savais même pas que j'en avais. Puis ça m'a bru, Amélie, qui avait parti ça. Elle mettait des heures d'ouverture et des photos, tu sais. Fait que moi... Je savais même pas qu'est-ce que c'était Facebook. J'ai dit, ah ben, coudonc, ben, si j'ai ça, je peux mettre quelque chose. Ça peut te faire du bien. Fait que je m'en vais mettre une capsule là. Et ça l'a parti en fou, ça. Je pense que les gens, je suis tombée dans un temps où les gens avaient besoin de rire beaucoup, beaucoup. Donc, en ayant besoin de rire, ben, moi, j'aime beaucoup passer de l'information avec de l'humour parce que je trouve qu'on retient plus. C'est quand il y a beaucoup de rire. Parce que souvent, les gens vont retenir plus la farce. Puis en retenant la farce, bon, ils vont se rappeler, ah, mais elle a dit cette farce-là pour telle affaire. Fait que là, ils vont comprendre.
C'est ça. Donc, tu es cette personnalité haute en couleur, mais qui n'a pas hésité aussi à, en fait, montrer une autre facette de ta personnalité. D'ailleurs, tu en as parlé dans ton autobiographie. Tu as quand même beaucoup de livres à ton actif, non seulement des livres en horticulture, mais d'autres, même, tu as écrit des romans.
Oui, j'ai commencé à écrire une trilogie. Historique qui a beaucoup marché parce que j'aime beaucoup l'histoire. Je suis très attachée à mes racines. Et là, j'ai écrit un autre, mais là, c'est deux livres. L'Adèle Alvénia qui est sorti ce printemps. Puis le deuxième tome, il sort le 7 août, là, l'Adèle Antonin, qui est encore une belle histoire historique. J'aime beaucoup l'histoire, moi. Tu sais, je me suis toujours dit, quand on sait d'où on vient, on a plus de chances de savoir où on va. Mm-hmm. Alors, tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis c'est sûr que j'ai écrit des livres de jardinage, puis j'ai écrit mon autobiographie aussi.
Oui, où tu révèles plein de choses sur toi, sur le fait que, évidemment, cette hyperactivité, finalement, la femme forte, la femme gestionnaire et puis femme d'affaires et puis qui est toujours à la fois, qui parle fort, qui est toujours rassembleuse et tout. Oui. Mais vraiment, ça masquait en même temps une sorte de... En fait, ton besoin d'amour, bien sûr, parce que ça vient de l'absence de la mère. On sait que tu as perdu ta mère étant très, très jeune. Alors, ton père qui a été quand même très aimant, qui a pris en charge la famille au grand complet. Vous étiez 7 hein, enfants, quand même.
Oui. Puis tu sais, ça, j'ai jamais eu de scrupules à montrer les deux côtés de ma personnalité. Parce que je me dis, l'être humain, c'est un être complexe, c'est un être qui a des blessures, c'est un être qui se fait au travers de ses blessures aussi. Et je pense qu'en parler, tu sais, quand j'ai parlé que j'avais fait une grosse dépression, ou ainsi de suite. Je pense que ça l'aide aussi d'autres personnes qui peut-être ont de la difficulté à en parler. Tu sais, moi, je dis toujours, il faut pas avoir peur de parler de ces choses-là, de parler quand on réussit pas ou qu'on a de la peine ou ainsi de suite. Moi, j'ai pas de problème à parler comme ça de mes choses. Parce que je me dis, en parler, ça nous libère.
Absolument.
Ça peut en aider d'autres.
Oui, puis d'ailleurs, tu n'hésites pas à aller à la rencontre de ton public quand tu fais tes spectacles, bien sûr, tes spectacles d'humour. Après le spectacle, évidemment, il y a tes livres aussi qu'il est bien de partager là, après les spectacles, mais tu rencontres les gens qui font, que te livrent des témoignages aussi qui à la fois te nourrissent en même temps.
Oui, parce que tu sais, après un show, les gens qui viennent te voir, tu sais, soit ils sont dans la joie, ils veulent te dire qu'ils ont ri, qu'ils ont passé un bon moment, mais il y en a aussi qui viennent te faire des confidences. Il y en a qui viennent te dire qu'ils viennent d'apprendre qu'ils sont très malades, ou qu'ils vivent un deuil, ou qu'ils ont perdu leur emploi, ou il y en a qui ont fait faillite, On entend toutes les peines du monde. Puis je pense que c'est important, même si c'est un show d'humour, de prendre le temps avec les gens, de les écouter, de les serrer dans nos bras. T'sais, en fin de compte, moi, je trouve qu'un show, c'est une rencontre d'humains. Mm-hmm. T'sais, puis ce qui est important, c'est que tout le monde, quand on ressort de là, on a eu ce qu'on avait besoin. Il y en a qui ont besoin de se faire serrer. Il y en a qui me disent, Marthe, je veux que tu me serres. Oui, pas trop. Il y en a qui disent, hey, Marthe, j'avais besoin de rire. Ça fait un an que j'ai pas ri. Parce que j'ai vécu telle affaire. Fait, tu sais, moi, ça me dérange pas, ça, d'entendre ça. Parce que je pense aussi à l'âge que je suis rendue. Écoute, j'ai 61 ans. Je commence à avoir du millage, c'est à vous, comme dirait mon père. Et donc, ça, entendre ça, ça me dérange pas. Parce que quand moi, c'est moi qui file pas par rapport à ce qu'on vit, soit avec la petite ou autre, ça, je me freine pas d'en parler. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est humain, ça.
Oui, je comprends. Et c'est probablement pour ça aussi que les gens s'ouvrent beaucoup à toi, Marthe. Oui. Parce que toi, t'as cette chance-là d'avoir une tribune, de pouvoir parler à la radio, à la télé. Tu parles un peu de tout ce que tu vis. Oui. Alors, tu ouvres la porte d'une certaine façon à ces gens-là qui en ont besoin.
Oui.
Ouais. À la fois, ça peut être lourd à porter aussi, remarque, parce que tu as été dans le rôle de la superwoman, finalement, pendant des années. Et justement, c'est ça qui t'a amené un peu à la dépression, parce que tu as montré cette image de toi alors que tu avais quand même beaucoup d'insécurité en toi. C'était pas la femme que tu étais profondément. Et puis, alors aujourd'hui, au contraire, là, tu as assumé pleinement cette vulnérabilité, tu la communiques, mais à la fois, c'est que là, tu reçois tous ces témoignages. Alors, ça aussi, ça peut être une grande responsabilité.
Oui, mais tu sais, j'ai eu la chance. Puis là, j'ai une chance. Puis je sais que ceux qui sont là-dedans, ils vont dire, oh mon Dieu, elle appelle ça une chance. J'ai eu la chance de faire une grosse dépression. Et quand j'en suis sortie, ça m'a pris 3 ans. Il y a deux choses que j'ai très bien compris. Premièrement, que entendre les problèmes de quelqu'un, c'est pas se mettre sur le dos. Moi, je peux l'entendre. Je peux les serrer. Je peux leur dire, je vais penser à toi, mais je sais très bien que c'est pas moi qui vais régler le problème. Ça ne m'atteint pas sur ce niveau-là, tu comprends-tu? Et je sais maintenant qui je suis. Et je sais que je suis un être imparfait, que je suis un être fragile. Puis, en l'assumant, ça, on devient beaucoup plus fort. C'est fou à dire. Hein? C'est en reconnaissant nos faiblesses, puis en le disant carrément, qu'on n'est pas des gens parfaits, qu'on peut se tromper, qu'on n'a pas réponse à tout. Tu sais, même en horticulture, il y en a des fois qui me disent, oh, Marthe, c'est telle affaire. Je peux pas toutes connaître les plantes de la planète, là. C'est pas le bon Dieu, moi.
C'est sûr. T'en sais beaucoup, mais il y a des limites, oui.
C'est ça. Je me donne toujours le droit que quand je le sais pas, je dis, ben, celle-là, je le sais pas. Puis, j'ai pas de honte à pas le savoir. Tu comprends-tu? Je me mets pas ce poids-là sur moi. Tu sais, moi, je fais de mon mieux. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Ce que je sais, je le sais. Ce que je sais pas, je le sais pas. Tu sais, quand je commence une conférence à horticole, je dis toujours la même affaire. Vous allez me poser des questions, puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Mais si je le sais, je vais te répondre. Mais si je le sais pas, je le sais pas. Mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui le sait, dites-le.
Qu'on soit
moins niaiseux, tout le monde dit. C'est ça le but d'une conférence.
Exact. Et puis, en fait, il faut quand même le dire, là, bon, on va tantôt s'arrêter pour une petite pause, là, juste le temps de reprendre notre souffle, et on va parler aussi un peu, bien sûr, de conseils, de choses comme ça pour jardiner. Mais, en fait, toute ta motivation, là, il faut le dire que, bon, tu as une petite fille aussi qui a une maladie qui est assez rare. Et puis, en fait, toute ta motivation, évidemment, tu as des enfants, c'est une petite fille, c'est le fils, c'est la fille de ton fils, d'un de tes fils. Et puis, la motivation, c'est d'avoir une maison de répit. Tu as une fondation et puis tu veux vraiment réussir, ça, c'est le grand projet de ta vie, d'avoir une maison de répit pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap.
Oui. Tu sais, on a une fondation qu'on donne depuis 5 ans. Pour toutes sortes de choses, puis là, je lance à tout le monde, même nous autres, on n'est pas régional, c'est la grandeur du Québec. Peu importe la maladie de votre enfant, sur notre charte de la Fondation, c'est les 0-16 ans. Alors, vous allez sur le site de la Fondation, puis si vous avez besoin, vous faites votre demande. T'sais, on donne pour toutes sortes d'affaires, du répit, des camps de jour, n'importe quoi. T'sais, je veux dire, on est là pour aider les parents qui n'en peuvent plus. Mais mon rêve ultime, ce serait, oui, de ramasser assez pour faire une maison de répit. On n'en a pas assez au Québec. Puis les parents sont fatigués.
Exact. Et puis, ben, tu communiques aussi le nom de la Fondation, Marthe, en passant?
Fondation Marthe Lavardière. Ceux qui veulent faire des demandes, vous allez sur fondationmarthelavardière.com. Je vous dis tout de suite, des fois, c'est un peu long avant qu'on vous réponde parce que c'est que des bénévoles qui répondent. C'est des mamans qui vivent, eux autres aussi, avec des enfants handicapés qui sont sur notre conseil. Donc, mais on répond toujours.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment un objectif qui est très important pour toi. Donc, toutes tes actions là, convergent vers ce grand projet de vie. Et puis, bon, est-ce que tu as cette conscience quand même que tu es quelqu'un de surdoué en partant?
Je n'ai jamais pensé à ça. Mais franchement, je me suis jamais arrêtée à ça. Je pense que l'être humain, on a tous beaucoup, beaucoup de capacités, mais que qu'on se freine nous-mêmes, c'est souvent par peur ou avoir peur aussi de pas réussir ou ce que le monde va dire ou ainsi de suite. On se freine, mais je pense que tout le monde en a énormément de capacités. Puis moi, ma dépression m'a montré à ne pas me freiner parce que j'ai accepté qui je suis, j'ai accepté mon physique, j'ai accepté de vieillir, j'ai accepté de pas être parfaite. Puis point final, point, c'est tout. Tu sais, j'essaie des choses, puis si ça marche pas, ça marche pas. Comme je dis souvent, j'ai pas tué personne, hein?
Ça a juste pas marché. Évidemment.
Puis, point final, tu sais, je veux dire, ce que les gens pensent de moi, ben, ça leur appartient. J'ai pas à juger non plus de ce que les gens pensent de nous. Tu sais, d'un fois, il y en a qui me disent, Marthe, t'as pas peur, d'un fois, des gens qui aimeraient pas ce que tu fais. J'ai dit, ils ont le droit de pas aimer. Ils ont le droit, tu sais, mais ils ont pas le droit de m'empêcher de le faire, par exemple.
Marthe, tu parles, en fait, tu dis que tu reconnais tes faiblesses, puis que ça t'a fait grandir.
Oui.
Je rajouterais à ça aussi que quand on traverse des périodes difficiles, puis tu le mentionnes aussi, tu as fait une dépression. Oui. Alors, et quand on vieillit aussi, tout ça nous permet de nous faire grandir.
Oui, oui. Puis tu sais, dans les pires épreuves de nos vies, puis crée-moi, si tu as lu mon livre, j'en ai mangé quelques bonnes claques dans la face. Dans les pires épreuves, quand on réussit à passer au travers, on en sort tellement grandi.
Oui, oui.
Tu sais, moi, je regarde beaucoup de gens qui ont peur de vieillir, mais moi, j'ai eu la chance à 47 ans de passer par-dessus ça. Tu sais, à quelque part, si tu veux pas vieillir, mon père disait, si tu veux pas vieillir, fille, tu veux mourir. Parce que c'est impossible d'avoir les deux.
C'est sûr.
Possible.
L'éternelle jeunesse, ça n'existe pas, ouais, bien sûr.
C'est ça. Puis il y a une beauté dans la vieillesse.
Ouais.
Tu sais, puis mais elle
est pas. Il y a une paix intérieure aussi.
Du physique. Elle n'est pas au niveau du physique. Tu sais, notre peau change, notre corps change, on vieillit, tu sais, ainsi de suite. Mais moi, d'un fois là, je vois à mes shows des madames ou des messieurs de 90 ans au-dessus qu'il y en a.
Mm-hmm.
Puis j'y regarde dans les yeux, puis il y a une beauté, mais une beauté, une profondeur que j'aimerais donc avoir moi aussi à cet âge-là. Mm. On voit qu'ils ont vécu, ils ont compris des choses, ils se sont assis sur une grande sagesse.
Tout à fait.
Et ça, là, ça, c'est merveilleux.
J'allais juste dire, Marc, Yvon Deschamps a déjà dit « Vieillir est la seule façon de ne pas vieillir jeune. » Mais de ne pas mourir jeune.
Oui, voilà.
Ben oui.
Exact.
Ben oui.
Ouais.
Ben
mais
oui.
En fait, ça, c'est ça qui te rend unique, finalement. Alors, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, d'abord, ben, c'est un peu couronné de succès, là, entre guillemets.
Oui.
Mais en plus, tu es une conteuse naturelle. Tu as un talent à ce niveau-là incroyable. Bon, même celui qui t'a accompagné, Mario Jean, disait que, évidemment, il était surpris de voir que tu pouvais, évidemment, faire pratiquement un spectacle de 2 heures sans avoir de texte. C'est vraiment dans ta tête. Tu peux improviser.
Oui.
On pourrait être ici pendant 3 heures de temps, puis... Tu parlerais encore, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Alors, ça te rend vraiment unique. Tu es un modèle unique, effectivement. Il n'y a pas personne qui est comme toi. En fait, tu es un mélange de plein de gens. On a parlé de... que ce soit de les Fred Pellerin et compagnie, les Boucard Diouf, enfin, on peut les nommer, mais toi, tu as ta couleur à toi. Alors, vraiment, on va s'arrêter juste, reprendre un petit peu notre souffle. On va parler de conseils, peut-être. Je pense, ici, on a, évidemment, notre auditoire. Il y a des gens qui sont à mobiliser. mobilité réduite. On peut parler de possibilités de jardinage aussi, même quand on n'a pas la liberté de mouvement toujours. Alors, une petite pause, là, juste le temps de souffler, puis on revient tout de suite. Alors, Marthe Laverdière, alors on poursuit avec elle, bien sûr, à Aime l'été. Justement, ben Marthe, on a repris notre souffle un peu, là, puis bon, ça n'a pas été long. On n'avait pas besoin de respirer.
Une petite bouffée.
Une petite bouffée, quoi. Alors, tu sais qu'on va parler de jardin après, dans la deuxième moitié d'heure, on va parler avec un photographe de jardin. Et puis, toi, tu as été aussi au domaine joli de Lotbinière, hein, au printemps. Alors, c'est un magnifique jardin, ça, c'est vraiment à découvrir. Alors, je vais aussi y revenir, puis on va parler aussi d'un jardin ou enfin d'une fermette pour des gens qui sont en situation de handicap ou enfin de jeunes adultes autistes ou en déficience intellectuelle. Alors, il y a des beaux projets comme ça, évidemment. Bon, alors, et là, je voudrais aussi que tu nous donnes peut-être des petits conseils. Des petits conseils.
Ouais, moi, Marthe, j'ai des sérieux problèmes. J'aime beaucoup les petites escapades de 3-4 jours.
Oui.
Mais quand je reviens, tout est fané.
C'est pas compliqué. Il faut comprendre quelque chose.
Ouais.
Quand on part fréquemment, il faut travailler à partir du printemps nos plantes. Pourquoi? Si tu arroses toujours juste un petit peu sur le dessus du sol, il faut que tu comprennes que ta plante, elle ne sait pas qu'elle est dans un pot, elle ne sait pas qu'elle est dans ton jardin. Elle pense qu'elle est en pleine nature et elle va développer son système racinaire par rapport à ce qu'elle pense qu'il y ait une nappe phréatique, qu'il y a de l'eau. Donc, si tu arroses toujours sur le dessus, elle va pratiquer juste les racines, elle va faire les racines juste sur le dessus. Donc, aussitôt que tu pars, que tu donnes plus d'eau, le soleil frappe là à terre, donc ça va déshydrater tout de suite et elle va faner.
Ah.
Mais si tu arroses très en profondeur, puis tu n'as pas besoin de le faire tous les jours, à moins quand on est en canicule. Si tu arroses bord en bord de ton pot, bord en bord de ton jardin surélevé, elle va développer un système racinaire beaucoup plus profond.
Ah.
Elle va être beaucoup plus résistante. Ça, c'est la première chose.
Okay.
Deuxième chose, ne jamais laisser votre terre à nu. Que ce soit dans vos pots, dans votre jardin surélevé ou en pleine terre, travaillez toujours avec des pays. Puis moi, je dis toujours, vous n'avez pas besoin d'investir dans des pays achetés. Des feuilles mortes hachées, même des feuilles mortes qui ne sont pas hachées, des hachures de gazon sèche, pas vertes, parce que là, ça va faire chauffer ta terre, de la paille, du foin, ceux qui sont en région. On met ça sur le dessus, pourquoi? Premièrement, ça garde l'humidité, ça empêche le vent d'assécher le dessus, puis les rayons du soleil, de frapper sur la terre et de la faire venir plus chaude. Jamais, jamais être à nu. D'ailleurs, la terre, quand elle est elle-même, elle va se couvrir tout de suite de mauvaises herbes. Pourquoi? Justement pour ne pas être à nu. Parce qu'elle est fragile à nu.
Je comprends.
Merci.
Merci, Marthe. Et puis, par rapport à des gens qui seraient à mobilité réduite, as-tu des idées, là, évidemment, pour... on peut se faire des bacs plus en hauteur, bien sûr, entre autres?
Oui. Et puis ça, c'est important... Si vous êtes à mobilité réduite, parce qu'on le vit, j'en vois beaucoup. Exemple, si tu as un bac surélevé, ça va bien, mais si tu as des cocombes ou des choses comme ça, demandez aux gens qui vous aident de mettre des filets pour faire grimper vos cocombes et non les faire pour qu'ils retombent vers le sol. Vous
ne
pourrez pas aller ramasser vos cocombes. Donc, on peut mettre n'importe quel filet qu'on achète dans des magasins à une pièce ou deux et le cocombe va grimper après. Fait que vous allez pouvoir créer le cocombe à hauteur de vos yeux.
C'est ça.
C'est beaucoup plus facile. Pensez toujours, tout ce qu'on peut faire grimper, on le fait grimper.
Ah oui, surtout pour des balcons, entre autres. C'est pratique, ça, pour les balcons. Mais pour les gens d'un certain âge, hein, parce qu'évidemment, jardiner, là, c'est pas facile là, pour des gens d'un certain âge. Donc, effectivement, jardiner en hauteur, c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour cueillir aussi vos légumes et tout. Alors, alors c'est sûr qu'on peut te suivre sur ta chaîne YouTube. Alors, tu donnes plein de conseils comme ça. On va voir tes conférences parce qu'en même temps, c'est une thérapie en même temps. C'est pas juste de l'horticulture, mais c'est vraiment une thérapie. On va voir tes spectacles pour se divertir, pour rire et puis partager avec toi toutes ces... Écoute, je sais pas, tu as acquis tellement de sagesse et de... Comment dire? C'est fou, là. Tu dis, je comprends, oui, que... Bon, on vieillit, d'accord, t'as un certain âge, mais je veux dire, quand même, il reste que d'avoir tout assimilé ça, c'est connaissances-là, empiriques, là, vraiment, de dire, par tes expériences personnelles, de les partager. Cette maturité émotionnelle, c'est quand même quelque chose. Et puis, tes romans, vraiment à lire aussi, qui s'inspirent, enfin, du monde rural, il faut le dire. Hein, c'est ton univers. Puis, alors, t'as quand même été sur des fermes et tout. Alors, vraiment, c'est vraiment, Marthe Laverdière, je sais pas, tu vas laisser tout un héritage.
Tant mieux, je pense qu'on vient sur la terre pour montrer qu'est-ce qu'on sait. Mon père disait, tu sais, dans la vie, tu vas remplir tes mains, fille, de toutes sortes de connaissances que tu vas avoir, mais n'oublie pas, avant de mourir, il faut que tu les aies vidées.
Mmh.
Et je pense que à 61 ans, je suis rendue à l'âge qu'il faut que je les vide, mais, que je montre qu'est-ce que je sais. C'est sûr que j'apprends toujours, moi aussi, mais il faut réellement montrer ce qu'on sait avant de partir. Ouais. Parce qu'on est venu pour ça, hein? Mm-hmm. Juste pour ça.
En tout cas, tu as bien des choses encore d'abord à apprendre, et puis comme ça, ton héritage ne sera que plus grand, c'est sûr.
Ouais.
Et on te remercie vraiment parce que tu es en vacances, là. Alors, donc, tu as congé de spectacle et tout, là, momentanément. On sait que tu te promènes toujours avec ton mari, et puis que, vous êtes vraiment... vous êtes en symbiose et tout. Et puis, tu le salueras de notre part.
Oui.
Et puis,
oui.
Bonnes vacances, Marthe. Et puis, ça a été un plaisir de t'accueillir, de passer cette demi-heure avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Bye-bye.
Bonnes vacances, Marthe. Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Alors, ma chère Nathalie, ça a été quelque chose avec Marthe.
J'aime tellement cette femme-là. Quand tu as parlé de ses premières vidéos-là, je me rappelle d'être tombée sur ces vidéos-là alors que personne ne la connaissait. Puis je me disais, mais elle sort d'où, cette femme-là?
Mais oui,
puis je me disais, ce sera pas long qu'elle va se retrouver à TV, elle.
Oui, c'est ça. C'est ce que tout le monde s'est dit, effectivement.
Elle est d'une gentillesse, puis comme je dis, d'être en vacances, d'accepter de nous parler.
Exact.
Moi, j'apprécie grandement.
Alors, tu vas aller visiter, tu souhaiterais aller visiter un beau jardin, je pense.
Oui, en fait, du 19 au 4 août, moi, j'ai envie de continuer de parler de fleurs. Il y a le Festif Fleurs du Coteau du Lac. C'est à 45 minutes à peu près de Montréal. Puis quand tu achètes ton billet d'entrée, ça nous permet de nous promener dans des grands champs ultra colorés. On y retrouve un peu plus de 200 variétés de fleurs. Je suis pas allée, mais j'ai lu les commentaires. Il paraît que c'est magnifique.
Alors ça, c'est vraiment plus sauvage, à la limite, hein, c'est ça?
En fait,
en quelque sorte.
Non. Ouais, moitié-moitié. Puis je te dirais, puis moi qui est très DIY, do it yourself, il y a une zone autocueillette. Tu sais, on connaît les autocueillettes de fraises.
Oui,
alors
oui,
là, c'est des autocueillettes de fleurs. On remplit nous-mêmes nos paniers de fleurs pour créer nos propres bouquets pour la maison. C'est un petit extra, mais tu peux pour la différence. Il y a différents formats de bouquets de fleurs que tu peux te créer. Et il y a aussi des tournesols en fleurs. Il y a un champ de tournesols en fleurs. Où, là, on sait que les gens... tu sais, il y en a qui vont des fois dans les champs des privés puis qui maganent les... pour prendre des photos.
C'est ça, ils vont piétiner
les
plants
Alors qu'au Festif Fleurs, ils ont créé des photo booths qu'on appelle, c'est des lieux Instagrammable.
On appelle ça comme ça maintenant, pour
exactement,
se faire photographier.
Ouais, il y a plusieurs lieux pour se faire photographier. Alors, j'irai, comme je t'en reparlerai. Il paraît que c'est de toute beauté, les couleurs.
Merveilleux. Alors, c'est ça, donc, une façon de ne pas piétiner les fleurs et puis de le faire de façon responsable.
Du 19 au 4 août, au Festival Fleurs de Coteau-du-Lac.
Parfait.
Allez-y.
Ben, merci. Et là, on va parler avec un photographe de fleurs, de jardins. Enfin, il va nous parler de son métier. Enfin, de toute façon, on va en savoir davantage sur lui. Laurent Dravigny, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bon, alors, écoutez, vous êtes... Est-ce qu'on peut vous présenter ainsi comme un photographe de fleurs, de jardins? Bon, ça a été plus quoi... est-ce que ça n'a pas été votre métier principal?
Non, effectivement, moi, j'ai travaillé en informatique et quand j'ai commencé à ma retraite, je me suis dit que je devais changer de domaine pour le plaisir et c'est ce qui m'a amené à photographier les fleurs. Et au début, quand on commence dans cette
activité-là,
on fait un peu toutes sortes de choses, mais moi, je me suis concentré sur les fleurs. Parce que ça m'attirait et puis aussi
les couleurs, les formes, les odeurs aussi, je pense.
Les odeurs aussi, oui, c'est ça. Il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut découvrir à photographier les fleurs. Et oui.
Faisiez-vous de la photo avant? C'est les premières fois que vous preniez.
J'en faisais de façon occasionnelle, mais c'était pas une passion comme ça l'est devenu avec les fleurs.
Oui, okay. Puis avec la retraite en même temps, c'est ça?
C'est ça. Quand on a plus de temps, on peut se permettre de faire des extravagances, si on peut dire.
Vous travaillez avec l'argentique ou votre cellulaire en numérique? Ou caméra numérique?
En numérique.
En numérique, OK.
Oui, c'est ça. On a des bons appareils aujourd'hui qui nous permettent de faire énormément de choses, puis que l'avantage d'un gros appareil versus un cellulaire, disons, c'est que sur un gros appareil, tu peux agrandir ta photo à un très grand format, puis ta photo va rester belle, contrairement au cellulaire où les photos deviennent un peu pixelisées.
Mmh. Donc, exact.
Toutes sortes de petits...
Il y a un flou, là. Oui, je comprends.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Vous, forcément, au lieu de faire... j'imagine que quand vous photographiez des fleurs, il y a des insectes. Les oiseaux sont quand même pas loin non plus, j'imagine. Alors, vous vous êtes passionné principalement pour les fleurs et les jardins, mais vous auriez pu aussi vous passionner pour les oiseaux et pour d'autres choses. Mais vraiment, ça a été, c'est ça, ce coup de cœur là, pour à la fois les odeurs, les couleurs et tout. Et puis, justement, c'est parce que vous avez exposé il y a à peu près 2 ans dans ce beau jardin à Lotbinière, là, dans le secteur de Lotbinière. C'est vraiment, c'est ça, ça a été une belle exposition que vous avez présentée il y a 2 ans. Donc, ce beau jardin du domaine joli de Lotbinière, vous connaissez bien, hein?
Oui, oui, certainement. C'est ça. On était 3 photographes à exposer à ce moment-là. Puis, ce qui est impressionnant dans cette exposition-là, on n'avait pas énormément de photos, mais c'était toutes des grands formats de photos. C'est 2 pieds par 3 pieds. Puis ça fait toute la différence quand on regarde une photo de cette grandeur-là, qu'on est face à ça. Et puis, moi, j'en ai même ramené chez moi de ces photos-là. Là. Puis quand on installe ça dans la maison, ça donne un autre coup de cœur, je peux vous l'assurer.
Je comprends. Oui. Et oui, c'est ça. Bien, est-ce que vous avez vous-même, comment vous procédez? C'est-à-dire que est-ce que vous allez photographier, on parlait du domaine joli de Lotbinière, mais il y en a plein, du jardin de métis. Est-ce que vous allez dans ce genre de jardin-là ou des jardins privés ou vous allez en forêt, enfin, je ne sais pas, n'importe où, dans les champs? Comment vous fonctionnez?
C'est surtout dans les jardins publics en général. Mais comme il y a de très beaux jardins partout, là, il y a le jardin botanique à Montréal, il y a les jardins de métis dans le coin de Rimouski, il y a l'île d'Orléans ici à Québec, le jardin Jeanne d'Arc qui est tout près du Concorde, là, qui est un établissement connu, puis il y a un jardin aussi de l'Université Laval qui est tout près derrière Place Sainte-Foy ici à Québec, qui s'appelle le jardin Van Denen. C'est mon préféré.
Ah oui?
Parce que, tout simplement, parce que c'est proche. Fait qu'on n'a pas besoin de se déplacer très loin pour faire de belles photos. C'est très grand, ce jardin-là, et c'est tellement diversifié, tout ce qu'il peut avoir là, qu'on en a plein les yeux.
Ben, puis, je comprends.
Le dernier avantage de ce jardin-là, c'est que tous les noms des fleurs sont identifiés parce que ça appartient à l'université. Ça fait que toutes les fleurs sont identifiées là-bas. Ça fait qu'on n'a pas à se casser la tête à savoir qu'est-ce que c'est quand on prend la photo. Il est déjà marqué.
Ouais. Est-ce que ça vous a donné l'idée de peut-être, vous faites des expositions, mais aussi est-ce que vous avez été approché pour des livres? Parce que ça, c'est beau, ça, vraiment. Évidemment, c'est intéressant aussi d'avoir ce beau livre de photos de jardin là, sur notre table ou notre table, en fait, notre table de chevet. Et puis,
Oui. Effectivement, j'en ai fait deux livres présentement. J'en ai fait un, le premier est en 2019, et puis le deuxième en 2022. Puis c'est tout simplement des photos de fleurs, mais prises vraiment de très, très près. Moi, c'est ce que je préfère. Puis je donne souvent aussi un petit peu de flou à ma photo pour me concentrer uniquement sur la partie qui m'intéresse. Puis tout le reste devient un peu flou. Ça donne un peu une ambiance pas surréelle, mais vraiment intéressante que je trouve pour mes photos. Et puis c'est là-dessus que je me concentre. C'est comme ça que je fais mes photos. Et quand je choisis mes photos pour mettre dans un livre, je prends toujours les plus belles, puis celles qui m'ont touché. Ouais.
C'est sûr, oui. Alors, effectivement, vous avez développé une sorte de façon à vous de photographier. Vous parlez de cette espèce de flou, donc c'est vraiment une caractéristique de votre travail. Alors, vraiment, c'est une passion, là. C'est devenu vraiment une passion. Et puis, est-ce que vous la partagez avec d'autres photographes? Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer d'autres photographes? Vous faites partie, je pense, de la Société des photographes artisans du Québec, hein?
C'est ça. Ça s'appelle l'ASPAC. Et puis, on a un site Internet. On a un site sur Facebook aussi. Ça fait qu'on est présent. Puis, on a des réunions aux trois semaines environ dans un cégep ici à Québec. Ça fait qu'on est 120, 125 peut-être. Toutes des gens qui partagent la même passion. Ça fait qu'on s'échange... Nous conseillons, on se pose des questions, on se présente ce qu'on a fait dans une sortie quelconque, ça peut être ça. Puis des fois, on a aussi des présentations des gens qui viennent nous voir pour nous dire et nous parler de leur sujet en particulier. Ça peut être les oiseaux, ça peut être les paysages, fait que chacun a son domaine, si on veut, si on peut dire.
Alors, quelle belle façon d'être dans le moment présent pour vraiment ça nous apporte certainement une grande paix, bien sûr, d'être comme ça parmi les fleurs, les jardins et tout. Alors, écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir, Laurent Dravigné. Alors, plaisir de partager avec vous cette passion qui est vraiment une passion au quotidien, je pense, hein, dans votre cas.
Effectivement, puis je voudrais juste vous dire, quand on photographie les fleurs, là, on photographie le bonheur, parce que ça nous rend heureux. C'est tellement beau, puis c'est tellement plaisant qu'on peut pas passer à côté de ce plaisir-là qui nous enveloppe à chaque moment. C'est que c'est vraiment une belle passion.
Ouais. Alors, c'est un plaisir. C'est ça. Vous allez donner le goût peut-être à d'autres personnes, justement, de se livrer à ce genre de passion parce que ça nous apporte effectivement beaucoup de comme vous le dites, de bonheur et de joie. Merci bien, en tout cas. Et puis, on avait Marthe Laverdière, elle, qui donne des conseils pour justement que nos fleurs soient belles et tout jardin. Parce que, oui, puis comment aussi attirer avec ça? On pense aux pollinisateurs. Ça amène, évidemment... tout l'aspect biodiversité, très intéressant en tout cas. Vraiment une belle activité estivale. Alors, ça a été un plaisir. Merci bien. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et d'autres belles photos comme ça.
Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Parfait.
Tu sais, Chantal, que certaines fleurs comme la lavande, la rose et le jasmin, qui ont des arômes apaisants qui peuvent réduire le stress et l'anxiété. Ouais, l'odeur de ces
juste
fleurs-là.
Cette odeur,
ouais, ben, l'odeur déclenche la libération d'endorphines. Et c'est ça qui rend heureux.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Ça peut améliorer puis, notre humeur et notre bien-être général.
Exactement. Puis, tu sais, on se plaint que des fois, moi, je remarque qu'on n'a pas beaucoup de papillons. C'est drôle.
Là, j'en ai. Non.
Les papillons, ça, ben, on parle des monarques, bien sûr.
Ouais.
Puis, il y a cette fameuse fleur là, que je l'avais sous les yeux, là, ben, parce que je ne veux pas. Je veux être sûre que je dis bon, le bon nom, mais est-ce que je me risquerais à dire l'escl... Je ne le dirai pas.
On le trouvera.
On le trouvera ultérieurement parce que je sais.
Mais il y en a presque plus de monarques.
Parce qu'il y a une fleur en particulier qu'on doit planter pour attirer les papillons monarques.
Oui.
Mais évidemment, on parle de toutes sortes d'autres papillons qui sont un peu absents, je dirais, de maintenant.
Mais il me semble que quand j'étais jeune,
on en voyait tellement.
Il y en avait tellement. Puis là, maintenant, si tu en vois un papillon sur ton jardin,
qu'il y a des fleurs sur notre terrain ou enfin sur notre balcon, je ne vois pas tant de papillons, contrairement à ce qu'on avait quand on était plus jeune.
Parliez-vous de l'asclépiade?
Oui, exactement! Merci. Et voilà, merci Mathieu. C'est parce que je l'avais, mais tu sais, j'ai tellement de feuilles,
paperasse.
De paperasse autour de moi que finalement, bon, c'est ça. J'avais ce mot-là à donner à Marthe Laverdière, mais là, j'ai mis ces trucs de côté.
Mais tu vois, j'en ai planté cette année. J'en ai planté et malgré ça, j'ai pas de papillons. Alors, je suis vraiment triste parce que j'adore les papillons.
À la recherche du monarque.
Ouais, à la recherche du monarque.
Bon, on continue à parler de jardin, aussi de fermettes après la pause, mais pour des jeunes adultes qui sont autistes, enfin, qui ont une déficience intellectuelle aussi. Alors, c'est vraiment un beau projet pour ces gens.
Thank you.
ben, on va avoir notre prochaine invitée qui est à l'autre bout du fil. Juste avant de lui parler, tu avais des suggestions de plantes pour attirer les papillons, toi?
Oui, des astibes. Des astibes attirent les papillons. Mais les bleuets, imagine-toi.
Ah, ben, écoute donc.
La lavande. Et Coréopsis, finalement. C'est des suggestions. C'est des plantes assez simples à acheter. Et puis, c'est supposé attirer les papillons. Alors maintenant, on se croise les doigts pour qu'ils se présentent
bien
dans
sûr.
Nos jardins.
Alors, elle est à l'autre bout du fil. On a tenté de la joindre, puis il y avait une panne de courant, apparemment. Bon, alors là, au moins, on a vive les cellulaires. C'est magnifique. Alors, Marie-Ève Charrette, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Bon, alors, vous êtes animatrice dans un endroit qui s'appelle les Jardins du Méandre.
Méandre.
Exactement. Alors, c'est un endroit bien particulier. Évidemment, c'est une espèce de fermette, en quelque sorte. On décrit ça comme un havre de paix où les personnes qui vivent avec le spectre de l'autisme ou ayant une déficience intellectuelle peuvent justement participer à plein d'activités. Alors, on fait de l'insertion sociale et professionnelle pour justement développer de l'autonomie pour ces gens-là.
Oui, oui, c'est bien ça. Alors, on aime dire qu'on cultive la différence ici aux Jardins de Méandre.
Oh, que c'est bien dit, oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est dans un cadre agricole éco-responsable et donc vous soutenez, vous offrez toutes sortes d'activités justement adaptées à ce genre de clientèle et vous êtes animatrice vous-même.
Oui, moi, je suis animatrice en cuisine. Alors, on a plusieurs plateaux de travail, qu'on aime dire, parce qu'on transforme tous nos produits sur place.
OK. Parce que non seulement, c'est ça, vous plantez vos légumes et tout, mais vous faites de la transformation.
Oui, on fait la transformation alimentaire ainsi qu'en herboristerie.
OK.
On a aussi nos animaux qu'on a à la ferme. Alors, vraiment, c'est tous nos participants qui s'occupent de faire rouler... cette merveilleuse place, autant aux animaux, aux champs, dans la cuisine. On fait un petit peu aussi de travaux manuels. Mm-hmm. Alors, on passe la tondeuse, on fait un petit peu de manœuvres de bois aussi qu'on fait et tout.
Ça peut être de l'entretien, oui, du domaine finalement. Et vous êtes situé à l'Assomption?
Oui, c'est bien ça. On est situé à l'Assomption, directement sur le boulevard L'Ange Gardien. On est bien caché par du grand sapinage.
Ah, ben écoutez, puis il y a la directrice générale, Nancy Aubu. En fait, c'est la propriétaire, hein?
Oui, c'est elle qui a créé ça avec M. Hamel. Ils ont mis ça sur pied parce qu'ils ont eux-mêmes un fils autiste.
Exact.
Et on sait qu'après 21 ans, ben il n'y a plus grand service pour eux.
C'est ça, à partir de 21 ans, c'est ça, c'est plus difficile. Hein? Bon, pour les gens qui vivent avec le spectre de l'autisme, on les laisse un petit peu, il y a moins d'encadrement, là, finalement. Alors, et donc, ils étaient inquiets par rapport à leur propre fils et ils ont voulu créer quelque chose, un projet comme ça, destiné à ce genre de personnes. Et puis, donc, vraiment, ça a été un beau succès avec les organismes de la région aussi. Donc, ont pu développer ce genre d'activité-là à leur propre ferme.
Oui, c'est bien ça. Ça a été un travail de longue haleine pour eux, là, parce que ça a commencé en 2009 pour finalement aboutir vraiment à ce qu'on est maintenant, seulement en 2015. Fait que maintenant, on accueille plus de 70 adultes qui côtoient à l'année longue notre beau site.
Okay.
Fait que c'est toute l'année.
Donc, ces gens-là vont travailler chez vous, si je comprends bien, c'est ça?
Oui, c'est vraiment du socio-pro qu'on fait.
OK.
Qui vient. On les supervise, on les guide, on leur montre.
OK.
Ça développe leur autonomie, ça brise l'isolement que ces personnes-là peuvent ressentir, ça fait des contacts sociaux, ça maintient les acquis aussi, hein, qu'ils ont appris à l'école, ça les maintient ici, parce qu'ils ont appris un peu la cuisine, t'sais, ils ont appris plein de choses, fait que pour maintenir ces acquis-là, c'est super bien pour ces personnes-là. Moi, c'est arrivé qu'il y en a qui cuisinent pour la première fois à 45 ans.
Hey là là. Et comme vous dites, vous êtes animatrice, ce qui veut dire que vous les encadrez, vous leur montrez comment faire?
Oui, c'est bien ça. Okay. Tous les animateurs ont un plateau qu'on appelle.
Mm-hmm.
Alors, on se perfectionne plus dans un des plateaux, mais on est capable de... Je suis capable d'aller jardiner, je ne suis pas juste en cuisine. Mais oui, on leur montre, on leur apprend. C'est beau de découvrir les autonomies, leurs talents cachés, des fois qu'on découvre. C'est des participants qui sont, mon Dieu, souriants, heureux d'être ici. Ce matin, d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage, je leur demandais comment ils se sentaient ici. C'est ça qu'ils nous ont dit. Aujourd'hui, ils sont heureux, contents. Mmh. C'est du bonheur pour eux venir ici.
Exactement. Puis, en fait, il y a des gens qui peuvent y aller, je pense, bon, une bonne partie de l'été. Là, c'est d'une part, il y a des gens d'âge, enfin, c'est varié aussi au niveau de l'âge, hein, je pense.
Ah oui, oui, oui. Ça part en saison régulière de 21 ans à 82 ans.
Ah, quand même. Ah, alors, c'est Dieu. Ça. Et puis, comme vous dites, vous opérez à l'année. Alors, mais aussi, oui. Il y a des camps de jour. Il y a une formule camp de jour aussi pour oui. donner un peu de répit aux parents.
C'est ça. Présentement, on est en camp de jour l'été, la saison estivale. Notre plus jeune a 13 ans et notre participant le plus âgé, c'est 82 ans aussi.
Là. Alors, chacun peut participer à différentes activités. J'imagine que certains ont des préférences. Alors, ça peut être le soin aux animaux. Vous faites faire un peu de construction, de menuiserie. Enfin, donc, oui. C'est vraiment pour développer toutes sortes d'habiletés.
Oui. Puis, on adapte aussi. Hein? Faut adapter les activités. C'est différent d'une personne de 13 ans, de 82 ans aussi.
Mais c'est sûr.
Chacun a leurs limitations aussi. Puis, on respecte ça. Puis, on adapte les tâches pour eux.
C'est ça. Ils ont la chance, donc, de toucher un peu à tout. Comme on a dit, l'entretien, l'horticulture comme telle, cuisine, transformation, soins animaliers. Alors, vraiment, c'est très varié. Oui. Donc, toute l'activité d'une ferme, finalement.
Oui, c'est ça. En plus de la production, transformation alimentaire qu'on peut acheter sur place, à venir en ligne.
Mais oui, vous avez une boutique en ligne. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment très, très varié. Et puis, bon, évidemment, vous devez fonctionner avec du financement. Ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mais oui. Je pense qu'il y a des organismes aussi je pense qu'il y a des organismes de la région, entre autres, qui vous aident.
Oui, bien, on a le... Je vais essayer de bien le prononcer, le CIUS. Le CIUS de la Naudière,
oui.
Qui nous, les services sociaux et tout, nous sont avec nous là-dedans pour nous guider aussi à faire entrer des nouveaux participants, pour nous guider sur leur limitation et tout. On a aussi beaucoup de partenariats. On a une belle pancarte de commandite, mais c'est une recherche à tous les années. Il faut aller rechercher ces commandites-là et toujours les garder avec nous le plus possible parce qu'on a besoin d'eux.
Exactement. Je pense au Club Richelieu aussi,
oui.
le club Richelieu de la Naudière. Enfin, bref, ouais, parce que vous êtes dans la région de la Naudière. Et puis, donc, vous comptez sur des partenaires. Est-ce que les gens qui vont chez vous, ce n'est que sur une base de bénévolat?
Les participants, non. Mais oui, on est toujours à la recherche de bénévoles. Alors, pour l'instant, en saison régulière, on en a deux. Mm-hmm. Deux personnes qui viennent nous aider bénévolement. On compte une équipe de 6 animateurs à mm-hmm. temps plein en saison régulière encore. L'été, on va chercher beaucoup d'emplois d'été pour nous aider parce qu'on a plus de participants l'été. Mais oui, les bénévoles, c'est une recherche constante aussi. On en a besoin.
Mais les gens qui vous aident, là, finalement, sur la ferme, reçoivent un petit salaire, autrement dit.
Oui, oui. On a 6 animateurs à temps plein et tout, mais toujours, toujours besoin de bénévoles.
C'est ça. Mm-hmm. Donc, pour accueillir cette clientèle, évidemment, qui développe avec vous, en fait, des habiletés particulières de travail de la ferme. Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment demeurer au sein d'une ferme, c'est-à-dire veulent poursuivre leur travail au sein d'une ferme?
Je pourrais pas vous dire les statistiques si on en a. Je sais qu'on a un ancien participant qui a étudié en horticulture, qui est diplômé.
Mmh. Ah, d'accord. Donc, ça développe aussi en même temps des projets de carrière.
Oui, ça peut les guider vers un emploi stable et tout, leur donner le courage peut-être même de se lancer.
Bien,
en les valorisant ici, puis quand ils sont bons, pourquoi pas les valoriser pour aller vers le milieu de l'emploi.
Donc, effectivement, un endroit vraiment très apaisant à la fois, très calme. Et c'est vraiment, je pense aussi pour cette clientèle-là, c'est important de sentir cette sécurité-là aussi auprès de soit des animaux, avec évidemment la nature environnante et tout. Alors, c'est vraiment une expérience exceptionnelle.
Oui, effectivement, même pour les employés, on est content de venir travailler. On est vraiment heureux de venir ici pour travailler. Et c'est pas une tâche comme telle. Puis on aime dire qu'on vit dans une petite micro-bulle ici.
Et si on invite les gens à aller acheter des produits chez vous, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous offrez comme produit?
Oui, alors on a des tisanes avec des petits noms apaisants. On a la, c'est pour la grippe, pour aider un peu. On a aussi des produits corporels, qui est une nouveauté. Mm-hmm. Crème, onguent pour les bestioles. Mm-hmm. Après ça, on a plusieurs soupes en pot qu'il faut que rajouter de l'eau, des pâtisseries en pot que vous avez qu'à rajouter les liquides, ouais. Confiture, marinade. Bon. Et j'en passe.
Bon, ben écoutez, merci beaucoup, Marie-Ève Charette, d'être venue nous en parler. Les jardins de Méandre dans l'Assomption, on s'informe là-dessus. Et puis, ben, bonne journée à vous et bon
merci
été à
beaucoup.
Tout le monde. Oui. Et ben, j'en profite, Nathalie, pour
bonne
saluer.
Ouais, bonne journée.
Bien sûr, bonne journée. Mm-hmm. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs. Et on se retrouve demain à M l'été, entre midi et 13h. Au revoir et bonne journée. Mm-hmm.